RFI.
Le débat du jour. Gaëtan Plenet.
RFI, il est 19h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans le débat sur RFI. Et ce soir, on parle de ça.
Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
Voilà, c'était il y a quelques jours devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La première ministre française, Elisabeth Borne, dégainait l'article 49, alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter la partie recette du projet de loi de finances sans passer par la case vote. Sur les bancs de la majorité, on applaudissait. Sur ceux de l'opposition NUPES, on se levait et on partait. Et on déposait même une motion de censure. Le Rassemblement national a fait de même. Des motions qui sont en train d'être débattues à l'Assemblée nationale. La première déposée par la NUPES vient d'être rejetée. Seulement 239 voix pour sur les 289 requises. On s'attend d'ailleurs à un scénario assez similaire pour les motions suivantes. Le gouvernement ne devrait pas être renversé et devrait donc obtenir, après la fin de la navette parlementaire, le projet de loi qu'elle désire. Et ce n'est pas tout, puisque la première ministre Elisabeth Borne a aussi déclenché une deuxième fois l'article 49.3 jeudi, cette fois sur le budget de la sécurité sociale. Voilà, la saison est lancée, ce ne pourrait être qu'un début, s'inquiète l'opposition qui crie au crime antidémocratique. Mais ce 49.3 l'est-il tant que cela antidémocratique? C'est le sujet du débat du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités avec moi en studio. Bonjour Olivier Rosenberg.
Bonjour.
Professeur au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, auteur du livre « Des députés français et l'Europe », édition presse de Sciences Po. Merci d'être avec nous et merci à vous aussi, Jean-Philippe de Rosier. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir même. Constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur du blog « La Constitution décodée ». Jean-Philippe de Rosier, justement, je commence avec vous. Si l'on s'en tient à la sémantique du débat du soir aujourd'hui, le 49.3 est-il antidémocratique? Non, puisqu'il est prévu dans la Constitution, a priori.
Oui, effectivement, on peut trancher de cette façon-là. Après, il peut y avoir des mécanismes qui sont prévus dans la Constitution, laquelle est parfaitement démocratique, je pense. Elle a été adoptée par le peuple français, elle peut être amendée par la représentation nationale, le cas échéant validée par référendum. Mais donc, disais-je, il peut y avoir des mécanismes prévus par la Constitution qui peuvent être détournés de leur finalité initiale et avoir pour conséquence un caractère antidémocratique. À peine élue, une Assemblée nationale est immédiatement dissoute parce que les élections ne traduisent pas la volonté initiale du président de la République, par exemple. Bon, le caractère démocratique de cette arme qu'est la dissolution pourrait être discuté à ce moment-là. Pour ce qui est du 49-3, c'est une arme qui est effectivement parfaitement démocratique, qui permet de construire une majorité sur un texte lorsque celle-ci n'existe pas ou qu'elle est incertaine. Telle est la finalité initiale de cet article lorsqu'il a été prévu dans la Constitution de 1958. Il a été détourné de cette finalité initiale à plusieurs reprises, notamment pour contrer ce que l'on appelle dans le jargon parlementaire l'obstruction, lorsqu'il y a de très nombreux amendements qui sont déposés sur un texte pour empêcher que celui-ci n'aboutisse. On dégaine le 49.3 ou on a pu dégainer le 49.3 parce que cet article permet de mettre fin à toute discussion. C'est ce qu'a fait Édouard Philippe sur les retraites en février 2020. Là, Elisabeth Borne l'a dégainé à deux reprises, sur la loi de finances initiale, puis sur une partie de la loi de financement de la sécurité sociale, pour effectivement construire une majorité, donc conformément à la finalité initiale, mais peut-être un peu tôt dans les débats. C'est là qu'il peut y avoir une discussion sur le caractère démocratique ou non, parce que les débats n'étaient pas achevés, il y avait encore des amendements à adopter, et donc, sous prétexte effectivement de vouloir construire cette majorité dont elle a besoin, elle en a également certainement profité pour éviter que son texte ne soit dénaturé, pour éviter qu'il y ait un certain nombre d'amendements qui ralentissent les 10 débats sur la discussion budgétaire.
On reviendra effectivement sur cette question question importante du délai auquel brandir cet article 49.3. Mais d'abord, il a été utilisé à 89 reprises depuis son introduction en 1958. Le record d'utilisation, c'est Michel Rocard, 28 reprises, un usage qui était non limité à l'époque, on le précise, puisque ça a été ensuite changé. On va y revenir également. Mais on est loin aujourd'hui des 28 49.3 par chef de gouvernement. Olivier Rosenberg, est-ce que ça veut dire que ça a changé, qu'on était plus décomplexé à l'époque et qu'aujourd'hui on le fait avec plus de parcimonie ?
Pas vraiment. Ce qui s'est passé en 1988, c'est qu'on a eu pour la première fois un gouvernement minoritaire. Et donc l'instrument s'est révélé très utile et comme c'était dit, il était un peu prévu pour ça, pour qu'on puisse gouverner en dépit de l'absence d'une majorité absolue. Donc c'est arrivé de 88 à 93 avec des utilisations à nombreuses reprises, plutôt respectueuse du Parlement paradoxalement parce qu'elle s'était utilisée en fin de procédure législative. Et depuis, les gouvernements ont eu des majorités plus ou moins confortables, mais n'étaient pas dans cette situation d'infériorité numérique dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Donc l'occurrence à nouveau de ces épisodes-là résulte de la nouvelle situation qu'on connaît en France de gouvernement minoritaire important, hein, puisqu'il manque plusieurs dizaines de députés. On est dans les deux premiers 49.3, on pourra en avoir beaucoup d'autres, parce qu'autant il y a une limitation à un texte par législature hors texte budgétaire, autant sur les textes budgétaires, il n'y a pas de limitation. Il y a plusieurs lectures, il y a la partie dépenses, il y a la partie retraite, il y a le budget normal, il y a le budget de la sécurité sociale, donc on pourrait imaginer une dizaine d'utilisations du 49.3 rien que sur les textes budgétaires.
Peut-être la fin de l'année.
De l'automne.
Oui. Effectivement, mais le 49.3 est effectivement introduit en 1958, puis il a changé en 2008 sous la présidence Sarkozy. Maintenant, il ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une session parlementaire, mais il est illimité pour le projet de finances, pour celui de la sécurité sociale. Et Jean-Philippe Derosier, pourquoi le 49.3 est-il limité pour les projets de budget ? Parce qu'on doit s'attendre à plus de blocages sur ces sujets-là dans le Parlement français.
Pour deux raisons. L'une théorique et l'autre statistique ou factuelle. La raison théorique, c'est que la loi la plus importante, après la Constitution bien sûr, mais parmi les lois entre guillemets ordinaires, c'est le budget. S'il existe aujourd'hui un Parlement dans l'histoire, la naissance du Parlement est justifiée par la nécessité de consentir à l'impôt. Et ce qui détermine la politique nationale qui va être conduite sur l'année à venir, c'est précisément le budget. Comment est-ce que on fait rentrer les deniers dans les caisses de l'État et à quoi est-ce qu'on les affecte, donc comment est-ce qu'on les dépense. Donc c'est pour cela, pour toutes ces raisons, que s'agissant de la loi la plus importante, effectivement, il fallait sécuriser son adoption pour faire fonctionner l'État. La deuxième raison est statistique et factuelle, c'est que précisément parce que c'est la loi la plus importante, c'est celle qui, avant sa limitation, avait mobilisé le plus le recours au 49.3. Vous avez dit que Michel Rocard l'a utilisé à 28 reprises. Je n'ai pas étudié statistiquement et précisément, mais la plupart des utilisations, pas toutes, mais la plupart des utilisations sont sur les textes budgétaires, afin justement là de s'assurer de l'adoption. Et puis, comme c'est justement la loi la plus importante, celle qui détermine la politique, les oppositions marquent généralement leur opposition au gouvernement en ne votant pas le budget. Raison pour laquelle les Républicains, qui sont un petit peu dans un entre-deux, mais ne veulent pas soutenir le gouvernement, avaient clairement fait savoir, dès le départ, par principe, qu'ils ne voteraient pas le budget.
D'où ce 49.3. Est-ce que c'est l'arme de l'Élysée ou c'est l'arme de Matignon, le 49.3 ?
Formellement, c'est évidemment l'arme de Matignon, c'est le Premier ministre qui engage, après délibération en Conseil des ministres. Alors la délibération en Conseil des ministres, ça ne veut pas dire qu'on se dit alors qui est pour, qui est contre, et puis on adopte. Non, c'est simplement que le Premier ministre informe le Conseil des ministres qu'il va avoir recours au 49.3. Il fait la même chose lorsqu'il engage la responsabilité du gouvernement, ne serait-ce que pour faire savoir que potentiellement, le lendemain, ils n'auront plus de job, puisque si jamais la motion de censure est adoptée, le gouvernement est tenu de démissionner. Donc c'est plus un caractère informatif, cette délibération en Conseil des ministres, mais c'est un requis procédural nécessaire. Et évidemment, lorsque l'on est dans le cadre de concordance de majorité, comme c'est le cas actuellement, c'est en accord avec le président de la République. Mais le Premier ministre dira au président de la République, je n'aurai pas de majorité sur ce texte. Et si le Premier ministre dit on n'aura pas recours au 49.3, ça veut dire qu'en réalité, il n'a plus confiance dans son Premier ministre et qu'il souhaite que celui-ci démissionne.
Olivier Rosenberg, le 49.3, votre avis, c'est un passage en force ou c'est effectivement une voie de secours face au blocage qui peut se dessiner à l'Assemblée ?
Il me semble que c'est une voie de secours dans une situation vraiment très particulière, qui est de pouvoir gouverner la France alors qu'il manque 40 députés pour avoir une majorité absolue. On s'y est habitué parce que c'est le cas depuis juin, mais c'est quand même une situation très spéciale, qui est rendue possible par le fait qu'il n'y ait pas de vote d'investiture obligatoire et qui est facilitée par différents instruments tels que celui-ci. Il me semble que le débat classique et un peu attendu, majorité contre opposition sur le 49-3, qu'on a tous les 5 ans ou tous les 4 ans quand il est utilisé, il prend une tournure particulière dans le contexte actuel. On a un gouvernement qui, objectivement, a des difficultés à gouverner la France. Il a un instrument pour le faire. Il me semble que l'utiliser relève plutôt de la survie collective que du passage en force. Mmh. Et d'autant plus que ce n'est pas une sécurité tout risque. C'est-à-dire que à tout moment, si les trois oppositions, la droite, l'extrême droite et la NUPES, si les trois oppositions décident de voter la même motion, non pas de se mettre d'accord sur quelqu'un, mais juste de voter le même texte, le gouvernement, dans l'heure ou le lendemain, est contraint à la démission. Donc c'est pas une sécurité totale. Et pour l'instant, la situation semble improbable, mais qui sait si demain, au lendemain d'une crise, songeons aux gilets jaunes, par exemple, pour une grande crise qui a traversé la France, si cette situation ne pourrait pas advenir. Donc ce n'est pas une sécurité absolue pour l'exécutif.
D'accord. Et au niveau du délai dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Philippe de Rosier, là, on est sur 55 heures de séance à l'Assemblée sur le budget avant que le gouvernement ne dégaine le 49-3. 5 minutes de discours d'Elisabeth Borne qui mettent fin à 7 jours de discussion à l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est un délai raisonnable pour respecter le débat démocratique ?
Non, et effectivement, Olivier Rosenberg dit que ce n'est pas un passage en force. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. Je suis d'accord parce qu'effectivement, il est nécessaire de recourir à cet instrument constitutionnel et démocratique pour construire la majorité sur le texte budgétaire. La façon dont il a été utilisé me semble se rapprocher d'une forme de passage en force.
Si je mets un trop petit tôt. Peu.
Parce qu'à la fois trop tôt, parce que remise en cause d'amendements qui avaient été adoptés par la représentation nationale, celle certes qui ne convenait pas au gouvernement, mais sur lesquels, au moment même où ils ont été adoptés, le gouvernement n'a pas, ou au moins où ils ont été discutés, le gouvernement n'avait pas demandé la réserve, ce qu'on appelle la réserve, c'est-à-dire que lorsqu'on discute un texte, on arrive à des amendements ou à un article, le gouvernement, dans la procédure parlementaire, peut demander à réserver cet article pour y revenir plus tard. Ça permet de réserver les questions qui fâchent, si j'ose dire, pour la fin, et le cas échéant, pour les faire passer par 49-3. Mais là, il y avait eu effectivement une mise en minorité du gouvernement. Et le fait que la Première ministre dise « bon, je fais revoter » entre guillemets sur ce sujet, et en réalité on ne revote pas formellement puisque ça passe par 49-3, ça c'est un petit peu un passage en force. Et dans l'absolu, ou en tout cas à travers ces 89 utilisations, l'article 49-3 a parfois été un passage en force. Lorsqu'il est utilisé par Édouard Philippe, je le disais tout à l'heure, sur les retraites, pour mettre un terme à l'obstruction, c'est un passage en force. Lorsqu'il est utilisé par Dominique de Villepin sur le CPE en 2005, c'est un passage en force.
Mais Édouard Philippe, c'était le début des débats au Parlement, si je me souviens bien. En tout cas, on était beaucoup plus tôt que maintenant, c'est-à-dire 7 jours d'échange. Ça ne vous paraît pas suffisant ? Pour vous, il aurait fallu attendre combien de temps ? Est-ce que là, on pourra avoir un délai, disons, applicable?
Alors,
et conseillable.
Le débat budgétaire est un petit peu particulier parce qu'il est lui-même enfermé dans des délais prévus par la Constitution. L'article 47, alinéa 2 et 3, prévoit des délais budgétaires pour la discussion budgétaire très précis parce que, justement, il faut adopter la loi avant la fin de l'année. Le premier délai, c'est le délai de 40 jours à disposition de l'Assemblée nationale pour adopter en première lecture la loi de finances dans sa première et sa deuxième partie. Rappelons que là, le 49-3 n'est engagé que sur la première partie, celle qui concerne les recettes, et que donc la discussion va se poursuivre dans les prochains jours sur la deuxième partie concernant les dépenses. Et il y aura vraisemblablement un 49-3 aussi sur la partie dépenses. Ce délai de 40 jours expire le 17 novembre. Le 49-3 a été engagé le 17 octobre, soit un mois avant l'expiration du dit délai. On aurait pu éventuellement attendre un petit peu plus, justement, pour permettre d'avancer encore un peu sur le texte, et peut-être pour l'exécutif aussi, de faire preuve d'un tout petit peu plus de souplesse, parce que je n'ai pas l'impression que l'exécutif actuellement, certes, est majoritaire, mais n'est pas non plus en position de force, comme il a pu l'être par le passé, et la négociation, le débat est toujours
bienvenu. Il faut lui laisser sa chance, lui laisser une place, être à l'écoute des oppositions, et pas forcément toutes les oppositions. Je comprends qu'il y en ait qui crispent davantage, mais il y en a qui me paraissent pouvoir davantage s'inscrire dans un débat, dans un échange constructif sur un texte.
Olivier Rosenberg, partagez cet avis.
Ce que je voulais ajouter pour la compréhension de vos auditeurs, c'est que quand le gouvernement engage le 49-3, il ne l'engage pas sur le texte tel qu'il a été voté jusqu'à l'heure de l'engagement, mais sur la version qu'il veut du texte. Donc il peut retenir, c'était le sens de l'intervention de mon collègue, il peut retenir des amendements qui ont été adoptés et d'autres qui n'ont pas été adoptés. Et c'est là que, même si ça reste tout à fait légal, hein, mais c'est là que ça soulève un problème démocratique. Moi, je pense dans la durée, c'est vrai que ça avait... On avait eu finalement pas mal d'heures de discussion, mais on a su par la presse que Emmanuel Macron, à l'Élysée, avait lui-même biffé entre deux rendez-vous les amendements qu'il souhaitait voir retenus et voire pas retenus dans la version finale. Encore une fois, le gouvernement en a tout à fait le droit légalement, mais c'est un peu problématique, surtout par rapport à la position officielle du gouvernement vis-à-vis du Parlement, qui était de dire on tend la main, on va négocier, on va gouverner autrement. Et puis c'est un peu de courte vue, parce qu'ils vont avoir besoin d'une partie de l'opposition, notamment de LR, pour la suite de l'année législative et de la législature. Ils vont avoir besoin de négocier. Donc cette position de grande fermeté, de verticalité, d'autoritarisme au moment du budget est un peu de courte vue. Je pense qu'ils auraient pu dire, écoutez, oui, on utilise le 49-3, on n'a pas tellement de choix, mais on le fait de façon respectueuse du Parlement, en retenant la plupart des amendements que vous avez adoptés. Peut-être certains non, parce qu'il y avait des problèmes financiers. Je pense à cette pauvre députée que j'ai vue, qui s'est battue pendant des années pour l'aide financière aux personnes dans les maisons de retraite. Elle arrive enfin à le faire voter à quelques voix près en séance, et puis elle apprend qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu retenir cet amendement, et c'est un combat de plusieurs années qui est remis à terre.
Et puis un autre amendement qui avait beaucoup marqué, c'était celui présenté par le Modem, qui prévoyait une surtaxation temporaire des superdividendes et
Modem,
des superachats.
Modem qui est une composante de la majorité,
en plus, bien sûr,
qui avait soutenu, donc amendement qui avait été voté à l'initiative d'une composante de la majorité, pas le parti du président de la République, bien sûr, mais un de ses alliés historiques, et voté avec des voix du parti du président de la République, aujourd'hui s'appelle Renaissance. Effectivement, là, qui n'a pas été retenu, et qui n'a pas été retenu parce que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a dit, en gros, c'est lui ou moi, c'est cet amendement ou moi, et je pense qu'il n'en croyait pas un mot, et que si le président de la République avait écouté et respecté la voix parlementaire, il aurait su remettre à sa place son ministre de l'Économie et des Finances. Je crois là, effectivement, que c'est à la fois une erreur démocratique, une erreur stratégique, une erreur politique que de ne pas avoir permis à cet amendement de prospérer, quitte à ce qu'il soit réécrit au Sénat, et surtout dans la période où nous sommes effectivement face à des super bénéfices de la part d'un certain nombre de grands groupes, notamment énergétiques, qui préoccupent ou qui interpellent les Français, et dans une situation de crise sociale et économique qui justifierait de renflouer encore davantage les caisses de l'État.
C'est vrai que c'est un sujet de l'actualité, mais ça veut dire que pour ces amendements-là précisément, ou est-ce qu'il faut considérer que si le gouvernement ne décaine pas tout de suite le 49-3, eh bien tous les amendements qui auraient été adoptés, peut-être contre son gré, avant le 49-3, devraient tous être adoptés? Est-ce que c'est ça que vous dites? Ou alors on fait du cas par cas et on parle précisément de celui sur les superdividendes?
Non, moi je suis plutôt d'avis, sauf entre guillemets cas de force majeure, que les amendements qui ont été discutés et adoptés, sur lesquels donc le gouvernement n'a pas, au moment du débat, demandé la réserve, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le renvoi à la fin de la discussion, que cela reste dans le texte et que le gouvernement respecte la volonté qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale. Michel Rocard, qui a, encore une fois, largement mobilisé le 49-3, a presque généralement, je n'ai pas fait une étude statistique très précise, mais globalement, a toujours respecté, déjà a engagé le 49-3 à la fin de la discussion,
donc à laisser la discussion aller jusqu'à son terme, et à respecter les amendements qui avaient été adoptés. Il émettait très souvent la réserve, c'est-à-dire qu'effectivement, il demandait à ce que ça vienne en fin de discussion, et là où c'était problématique, il le passait dans le 49-3, il l'écrivait à sa guise.
Mais d'ailleurs, vient peut-être de ça, 28 fois le 49-3 sous Michel Rocard, 5 motions de censure seulement déposées par l'Assemblée à l'époque.
Absolument.
C'est quelque chose qu'aurait pu...
Et aucune adoptée.
En plus, absolument,
puisqu'une seule fois... Une à 5 voix près, mais...
Il faut préciser sur ce faible nombre de motions de censure déposées par rapport au nombre d'utilisation du 49-3, il faut préciser que le 49-3 est un peu coûteux pour l'opposition, puisqu'on ne va compter dans le scrutin que le vote de ceux qui soutiennent la motion, donc qui s'opposent au gouvernement. On va compter seulement leurs voix. Chaque voix est individuelle. Ça veut dire non seulement ça, mais ça veut dire qu'il faut faire venir les députés de son camp à Paris, un lundi, un mardi, enfin, quel que soit le jour où on vote, pour un résultat final qui est probablement, très probablement, on verra s'il y a du suspense plus tard dans la législature, mais très probablement négatif. Donc c'est un peu compliqué, surtout quand c'est la cinquième fois, si vous voulez, de faire venir vos troupes, qui manquent pas une voile, et il en manque presque pas dans le premier vote de ce soir. Donc ça peut expliquer que, quand le 49-3 est engagé, l'opposition hésite à déposer une motion de censure qui va, quelque part, révéler à la fois son infériorité numérique et puis sa difficulté, parfois, à mobiliser les troupes.
Mais alors, vous le disiez, Olivier Rosenberg, c'est difficile, effectivement, de faire adopter une motion de censure. Il n'y en a qu'une seule en 1962. Mais ça veut dire que ce n'est pas suffisant comme contrepartie face à l'utilisation du 49-3. Il faudrait imaginer autre chose, puisque c'est couru d'avance, a priori, effectivement, en tout cas dans la plupart des temps, la motion de censure qui n'est pas adoptée, c'est le cas ce soir pour l'instant. Ça veut dire qu'il faudrait prévoir d'autres contreparties face au 49-3.
Quand on compare les démocraties européennes, on a des grands équilibres et on voit que soit difficile d'investir le gouvernement, comme le gouvernement allemand. Il faut une majorité absolue, un bulletin secret, le choix entre plusieurs candidats. Et dans ce cas-là, ce gouvernement qu'on a très difficilement investi, il va être difficile à censurer. Donc on a un équilibre qui se fait au moment de l'investiture. L'autre modèle, c'est le modèle nordique qu'on trouve par exemple aux Pays-Bas ou au Danemark. Pas d'investiture, mais alors la censure va être très simple à majorité relative. En France, on a un peu le pire des deux, si vous voulez. À la fois, il n'y a pas de vote d'investiture qui est requis, mais la censure est difficile, vu que c'est cette majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée, non pas des votants. Donc si on veut redonner un peu d'air au Parlement, il faudrait poser une condition de majorité relative, par exemple, pour la censure. Ce serait une possibilité. Une autre possibilité, si on se concentre plus précisément sur le 49-3, ce serait par exemple de réfléchir, effectivement, comme on le disait, à ce que les articles adoptés demeurent dans la version finale. Après, ça entraînerait des effets pervers comme une incitation du gouvernement à l'utiliser le plus tôt possible. Donc, il faudrait y réfléchir à tête reposée. Mais effectivement, on pourrait trouver une ingénierie pour donner un peu plus la main au Parlement tout en conservant l'outil.
Jean-Philippe Derosier, vous êtes d'accord? Il faut plus peut-être de contrepartie, effectivement, parler de la majorité relative, etc.
Alors, je vais remonter le fil des réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, je pense qu'il y a eu une erreur en 2008 lorsque l'on a limité le nombre d'usages du 49-3. Parce que l'on voit précisément que lorsque le gouvernement est confronté à une majorité relative, il peut en avoir besoin, effectivement sur le texte budgétaire, mais probablement aussi sur d'autres textes plus d'une fois. Et la conséquence de cette limitation à un seul texte, c'est que si jamais le gouvernement effectivement pressent ou voit que politiquement il n'arrivera pas à faire passer plusieurs de ces réformes, il va tout mettre dans une seule loi qui sera une loi fourre-tout, illisible, et il engagera le 49-3 là-dessus, ce qui n'est pas forcément une bonne solution. Il aurait été préférable, de mon point de vue, qu'effectivement il y ait une limitation qui soit introduite, mais une limitation dans le temps, plutôt qu'une limitation sur le nombre de textes, c'est-à-dire qu'on ne puisse mobiliser le 49-3 qu'à la fin des débats parlementaires. Ce qui, effectivement, aurait clairement remis le 49-3 dans sa finalité initiale. On n'aurait plus pu l'utiliser pour contrer l'obstruction, puisqu'on ne peut pas l'activer au plein milieu des débats, mais on ne peut l'activer qu'à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a épuisé tout l'examen des différents amendements, le cas échéant avec réserve, mais cela aurait été, je pense, plus conforme tant au sens de cet article, au mécanisme de cet article, de sa finalité, et au respect du Parlement. En revanche, moi je suis un partisan du parlementarisme rationalisé, et je trouve que la Ve République a plutôt bien réussi sa tâche à ce niveau-là. Et le mécanisme et les équilibres qui sont mis en place
pour justement permettre au gouvernement de gouverner, pardon pour la redondance, même dans une hypothèse de majorité qui n'est pas absolue, sont effectivement ceux qui ressortent d'abord de l'article 49. C'est-à-dire que, premièrement, la confiance du président de la République, qui a une légitimité originelle, si j'ose dire, suffit à instituer le gouvernement, qui n'a donc pas besoin d'avoir l'investiture, d'obtenir la confiance de l'Assemblée, charge à l'Assemblée, pour elle, à tout instant, de montrer qu'il y a une majorité contre le gouvernement, qui doit être une majorité absolue, parce que ceux qui le soutiennent ou qui laissent aller ne s'expriment pas, et donc laisse la majorité absolue des députés renvoyer le gouvernement si tel est leur désir. Il faut atteindre ce seuil pour effectivement provoquer le renvoi du gouvernement. Et en réalité, on sait que même si ce n'est pas prévu par le texte, automatiquement, politiquement, lorsqu'une motion de censure est adoptée, on procède à une dissolution et on a de nouvelles élections législatives.
Mais en attendant, le gouvernement persiste et signe. On pourrait citer le ministre, M. Le Maire, qui disait qu'il y ait des divergences, ça s'appelle la démocratie. Que la majorité décide à la fin, ça s'appelle aussi la démocratie. Il a raison, Olivier Rosenberg, c'est à la fin, c'est la réalité du système politique français. Le dernier mot pour la majorité.
On peut pas résumer une démocratie à ça, toute la magie, toute la beauté du parlementarisme qui dépasse les deux derniers siècles et s'inscrit dans l'histoire humaine. C'est quand même l'idée que la loi du plus fort ne suffit pas, en l'occurrence la loi du plus nombreux, celui qui a le plus de députés. C'est l'idée que une décision doit procéder d'une discussion, d'un échange d'arguments, pas forcément dans un idéal délibératif philosophique, mais qu'au moins on est discuté que celui qui est le plus fort donne des raisons qui sont sur le fond, qui procèdent pas uniquement de sa position de force. Donc l'avis du ministre me semble un peu caricatural. On n'est pas dans une épreuve sportive, on est dans un exercice collectif humain où il faut un peu faire attention les uns aux autres, ne serait-ce que parce que in fine on décide sur de la norme, on décide sur des règles qui vont contraindre la vie en société, qui vont s'appliquer, qui doivent s'appliquer auprès de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Donc c'est un enjeu majeur de faire accepter la légitimité de ce qu'on décide. Et pour ça, les procédures, les institutions comptent et l'échange de parole aussi.
Surtout que c'est un avis que peuvent partager des députés de la majorité. On n'est pas forcément à l'abri de ça, un désaccord de députés de la majorité face à l'utilisation du 49-3. Ça peut arriver, c'est peut-être le cas aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on le disait, il y a des amendements qui ont été votés par la majorité. C'est quelque chose que le gouvernement doit soigner aussi, la communication auprès de sa majorité sur l'utilisation de cet amendement.
Pour l'instant, il le fait plutôt sur le mode de la menace. Il y a 2-3 semaines, Emmanuel Macron a laissé fuiter tout à fait volontairement le fait qu'un problème de vote de texte pourrait entraîner une dissolution, que c'était une hypothèse qu'il estimait tout à fait sérieuse. Il n'a pas dit ça pour le... Il n'a pas dit ça pour l'opposition, il n'a pas dit ça pour l'extrême droite et l'extrême gauche, il a dit ça pour sa majorité et pour des députés LR qui hésiteraient à censurer le gouvernement de façon assez claire en disant « il va falloir me soutenir, sinon vous risquez de retourner devant les électeurs avant l'heure ».
Jean-Philippe Berosier.
Oui, il y a une formule qui consiste à dire « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Elle est relativement vraie parce qu'effectivement, c'est la majorité qui décide. Mais rappelons-le, la Constitution elle-même prévoit, dans l'article 6 de la Déclaration de 89, que la loi est l'expression de la volonté générale. Ce qui veut dire qu'elle se construit avec des votes majoritaires, mais le cas échéant, et potentiellement avec l'écoute de la minorité, de l'opposition, qui peut construire la loi avec la majorité. Et précisément, lorsque l'on est dans une position un petit peu de faiblesse parce que majorité relative, il est prudent, politiquement sage, de respecter le Parlement et d'essayer d'écouter autant que faire se peut la minorité, les oppositions. Je pense que là, le gouvernement a perdu une occasion de le faire.
Surtout que ça peut se payer dans la rue après, c'est quand même...
Absolument.
C'est le défi, Olivier Rosenberg, après l'utilisation du 49-3 et après les motions de censure qui seront peut-être rejetées, c'est la bataille de l'opinion publique qui pèsera dans la balance aussi.
Oui, on se souvient que sous Chirac, le 49-3 avait été utilisé pour le contrat emploi jeune.
CPE, oui.
Le CPE.
Le contrat première embauche.
Constraint à première embauche, excusez-moi.
Dominique de Villepin, tout à fait.
Et alors, donc c'était passé à l'Assemblée avec cette procédure. Et suite aux manifestations dans la rue, Jacques Chirac avait dit, bon, on va promulguer, mais on n'appliquera pas. Ce qui était tout à fait innovant d'un point de vue juridique, intéressant. Donc c'était un bon exemple du fait que le passage en force dans les institutions se soldait d'un blocage dans la rue.
Merci beaucoup Olivier Rosenberg, professeur au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Et merci à vous Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI pour ce débat du jour. L'information continue sur RFI, il sera 20.